Les premières semaines ont été les plus difficiles. Il fallait tout mettre en place, revoir tous les protocoles, toutes les habitudes, réorienter la production davantage vers le marché de détail que celui de la restauration, acheter des équipements de protection et autres, et aussi voir à créer rapidement des milieux et des conditions de travail sécuritaires pour le personnel. On y est arrivé, même si chaque jour apporte encore son lot de défis. Par chance, dans l'agroalimentaire, on peut compter sur une grande solidarité des partenaires. Richard Davis, vice-président principal vente et marketing chez Olimel, était l'un des invités au webinaire du CRAAC, traitant entre autres des impacts de la pandémie. L'histoire commence en Chine, le 25 janvier.
Du confinement, là, essentiellement tout le mois de février, tout le mois de mars. Vous comprendrez que pour l'email qui envoie l'équivalent de 200 à 225 conteneurs par semaine vers la Chine, mais il y a un refoulement important. On ne peut plus, pour cette période-là, continuer et poursuivre nos expéditions. Donc, on commence à avoir des problèmes logistiques ici, là, étant donné que la viande s'accumule dans nos entrepôts et on n'a pas des capacités internes et externes d'entreposage illimitées ici au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, premier signal, interruption importante là, pour nous. Là. La Chine, vous comprendrez, c'est environ 20 à 25 % de notre volume actuel. Donc, à la mi-mars, le 15 mars, tout dégénère ici au Québec, au Canada. Essentiellement, on a deux sites qui sont frappés assez rapidement. Notre usine de Yamachiche, qu'on a dû fermer à la fin mars pour une période de 14 jours. Et l'usine d'Ange Gardien, là, de F. Ménard, là, qu'on a fermée pour quelques jours aussi. Immédiatement, je dirais, dans les dernières semaines de mars et avril, on voit un impact matériel au niveau de nos activités au service alimentaire, où tout freine essentiellement, nos volumes chutent d'au-delà de 80 % sur l'ensemble des réseaux de services alimentaires qui, évidemment, cherchaient à trouver qu'est-ce qui pourrait rester ouvert, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc, je dirais pour 4 à 6 semaines, assez déstabilisé de ce côté-là. Puis en même temps, mais évidemment, au niveau du détail, où les gens ou les consommateurs doivent se diriger là, pour assurer les stocks nécessaires pour s'alimenter. Mais là, c'est le contraire. Vous vous rappelez, les tablettes vides un peu partout, que ce soit au niveau des protéines, que ce soit au niveau du papier de toilette, que ce soit au niveau de plusieurs produits. Là. Donc, c'est le phénomène de stockage qu'on voit en mars, en avril, de la part des consommateurs ici chez nous. Si on se réfère à nos actions, mais immédiatement à mi-mars, on a fait appel tant au niveau des usines qu'au niveau de nos bureaux à des spécialistes, des médecins spécialistes pour l'élaboration d'un plan d'action complexe. Donc, un réaménagement important de tous les sites de production et distribution de nos bureaux, des ralentissements de cadence dans certains cas. On a fait des ajustements de nos mix produits. Là. Donc, il a fallu, un, pour des raisons de distanciation et deux aussi pour rapidement corriger le problème qui affectait en amont là, la production à la ferme où les porcs et les volailles refoulaient à la ferme qui était évidemment ingérable pour nos partenaires producteurs. Donc, il a fallu qu'on sacrifie la valeur ajoutée pour maintenir des cadences optimales au niveau de l'abattage. Donc, juste pour donner une idée, sur le Japon, avant le 15 mars, on faisait environ 70 conteneurs de produits frais de porc, donc à haute valeur ajoutée. Il a fallu réduire ça de au moins 25 conteneurs pour pouvoir rencontrer ces objectifs-là là, d'optimiser l'abattage pour, ni plus ni moins, débloquer là, ce qui se passait à la ferme. Puis à ce jour, aujourd'hui, là, en termes, je ne passerai pas tout en détail, là, mais en termes de coûts directs reliés à la COVID de l'entreprise, on parle de coûts additionnels non prévus de 35 millions de dollars là, allés jusqu'à aujourd'hui en octobre. Des leçons, des considérations futures, des apprentissages. Bon, évidemment, Olimel, au fil des ans, on a quand même une bonne diversification au niveau de nos activités, tant sur le marché domestique qu'à l'étranger. Évidemment, si on regarde nos activités sur le marché domestique, une bonne distribution au détail pan-canadienne nous a permis là, d'atténuer la chute dramatique qu'on a eue au niveau du service alimentaire. Donc, évidemment, cette approche-là, cette diversification-là nous a bien servi et continue à bien nous servir. Je parlais tantôt de l'arrimage qu'on a fait avec les producteurs de porc et de volaille. Donc, l'excellente coopération en amont et en aval avec tous nos partenaires d'affaires. Puis c'est aussi nos fournisseurs d'équipement. Évidemment, il a fallu qu'on équipe, qu'on meuble, usine et bureaux assez rapidement là, pour pouvoir respecter les attentes au niveau de la santé publique. Et cette coopération-là, évidemment, c'est à retenir et à maintenir en allant de l'avant. Je dirais un troisième point. Évidemment, on se rend compte qu'on n'est jamais assez bien préparé. Là. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais évidemment, la contingence, surtout dans le cas de, je dirais, même de la grande entreprise, mais aussi les petites entreprises, il faut toujours les prévoir, les préparer et les planifier pour pouvoir les activer les plus rapidement possible et essentiellement limiter les dégâts.
Chez AgroPure, le virus COVID-19 aura été un ingrédient de plus dans le cocktail de défis qui confronte le secteur laitier. Le président d'AgroPure, le producteur de lait, Roger Massicotte.
Une année remplie de défis chez AgroPure, bien, vous savez très bien, les marchés sont de plus en plus complexes et la transformation de notre organisation était en mode active avant le début de la COVID. On voulait simplifier notre organisation. On est entré dans des ententes commerciales qui ont des impacts majeurs sur l'industrie laitière canadienne, compte tenu que l'industrie laitière est sous gestion de l'offre. L'entrée en vigueur de l'entente Canada-États-Unis-Mexique jusqu'à cet été, on s'attendait à ce qu'elle soit ratifiée, mais un peu plus tard, puis finalement, il y en a qui ont trouvé le temps de gérer ça pareil. Les consommateurs, bien, vous savez qu'ils sont en changement actuellement précoce. Qu'on va dire, là, c'est le consommateur, là, il veut savoir d'où ça te sort les produits. Il y a un changement majeur dans l'habitude de la consommation actuelle. Et les derniers mois, bien, ils ont eu beaucoup de challenges, là. On a un qui a passé l'automne passé, le blocus ferroviaire, la grève au port de Montréal, qu'on n'avait pas besoin de ça pantoute cet été, qu'on a fallu gérer avec ça. Et vous savez, la COVID. Bien, l'industrie laitière, malgré cette COVID-là, malgré ces perturbations-là, c'est assez incroyable d'avoir été capable de maintenir la chaîne d'approvisionnement de façon, je dirais même, exemplaire. D'entrée de jeu, en tout cas chez AgroPure, on a mis en place des cellules de gestion de crise et deux fois par semaine, les gens d'industrie se parlaient. Moi, je me souviens, là, j'étais au téléphone deux fois par semaine avec l'ensemble de l'industrie pour prévenir ce qui s'en venait. Puis vous savez comme nous que ça a été challengeant, que ce soit au niveau des marchés américains. Le marché américain qui a eu des swings incroyables dans le marché. À partir du mois de mars, le prix du fromage américain est chuté de façon historiquement bas en l'espace de quelques semaines. Et là, on se ramassait avec des producteurs qui jetaient du lait puis que le marché ne pouvait pas absorber ce lait-là. Et du jour au lendemain, bien, les gouvernements qui injectent de l'argent dans le système pour supporter les banques alimentaires, et whoop, le prix a fait un swing sur l'autre bord. On a reconnu des swings, la volatilité qui est dure à gérer. Alors oui, la COVID vient s'ajouter à l'ensemble de l'impact des ententes commerciales qui a été mis en place, l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Vous saviez, on avait la clause 7 qu'il fallait gérer dans cette entente-là. Ça a été un énorme chantier en peu de temps. La limite à l'exportation de nos protéines laitières, de lait écrémé, qui est passée de 80 000 tonnes en 2019, 80 000 tonnes de poudre de lait écrémé qu'on avait le droit de faire, à aujourd'hui qu'il faut ramener ça à 35 000 tonnes. Alors, c'est tout un chantier. Puis, bien entendu, la COVID est venue chambaler complètement le marché canadien. Et avec le HRI au Canada, que partout au monde, bien, les restaurants fermés, les institutions fermées, mais vous savez ce que ça représente, ça a baissé le système de 35 %. Alors, AgroPure, malgré ça, continue de faire de l'innovation parce qu'on a parlé de protéines tantôt, mais on a des produits qu'on veut rajouter de la protéine aux aliments parce que pour répondre aux besoins du consommateur d'aujourd'hui. Puis quand on parle de taille et services alimentaires, bien, je vous donne un exemple. Quand on est habitué de livrer de la crème chez Tim Hortons dans des poches de 20 litres et que tout d'un coup, c'est le marché de détail qu'il faut qu'il l'absorbe, je n'ai pas l'impression que personne n'a acheté de la crème aux 20 litres là, à l'épicerie. Là. Alors, toute la chaîne d'approvisionnement a fallu qu'il se vire de bord, que ce soit des usines, que ce soit les façons d'emballer, le transport, ça a été tout qu'un chantier de mettre en place en si peu de temps, puis que ce soit le fromage, que ce soit tous les produits, ce qui est vendu en chérie et pas nécessairement sur les mêmes formats qui existent en détail. Alors, encore une fois, ça a chamboulé toutes les familles, que ce soit à la ferme. Je me souviens, là, à la ferme, là, gérer la crise de surplus de lait en l'espace de 15 jours, qu'on ne savait plus où mettre le lait, les usines ne fournissaient plus. Bien, tout le monde a adhéré à ça, a tari des vaches, que ce soit les transporteurs qui adhéraient à ça, que ce soit nos gens dans l'usine, parce qu'on était quand même un service essentiel où les gens à l'usine, là, pas de garderie, pas d'école, il faut tenir le cap, il faut rentrer du monde dans les usines. Chapeau pour ces gens-là qui ont relevé ce défi-là. Avec très peu de cas qui ont rentré, nous autres, au niveau de nos usines.
Dans un prochain blog, je reviendrai sur ce webinaire du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Pour mettre la table, le professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation, Maurice Doyon, qui part du fait que le pourcentage du produit intérieur brut dû aux dépenses des consommateurs était de plus de 56 % en début d'année 2020.
Qu'on est en chute significative, on parle des chutes de 13 % dernière statistique disponible. Et le taux de chômage, bien, regardez, on tournait autour de 5,5%, et puis là, on se ramasse avec, au dernier chiffre, à 10 %, puis on a monté jusqu'à près de 14. Et pour compenser ça, bien sûr, la Banque du Canada, qui avait commencé une remontée des taux d'intérêt là, en 2018 et en 2019, bien là, on a eu une chute drastique, comme vous pouvez le constater, du taux directeur. Là, on est à 0,25, c'est un chiffre très, très bas. Et si on regarde maintenant la confiance des consommateurs, pourquoi la confiance? Parce qu'on l'a vu, un gros pourcentage de notre PIB dépend de notre consommateur. Donc, s'il est confiant, il va dépenser plus. Et on peut voir que sa confiance a chuté drastiquement en avril. Rappelez-vous, en avril, on n'en savait pas beaucoup, ça allait vraiment pas bien. On voit que cette confiance-là, elle a quand même monté. Mais on peut s'attendre que là, avec un reconfinement potentiel peut-être de tout le Québec et dans les prochaines semaines, cette confiance-là va peut-être rebaisser dans les prochains chiffres. La bonne nouvelle, s'il y en a une là-dedans, c'est le taux d'épargne et le taux d'endettement. Les Canadiens étaient très endettés, le taux d'endettement a diminué. Et regardez le taux d'épargne en juillet, on parle de 28 %. Ça, c'est des vacances qui n'ont pas été prises et qui ont été épargnées de toute évidence. Et la contrepartie, par contre, qui est moins intéressante, ce sont les dépenses gouvernementales. Écoutez, le gouvernement canadien, les gouvernements se sont substitués à l'entreprise privée qui a subi des baisses drastiques d'activité. Et là, on voit qu'il y aura un déficit, il y aura une dette à rembourser éventuellement.
Ici Lionel Levac. La pandémie n'est pas terminée. Sûrement qu'il faudra refaire un tour d'horizon dans quelques mois. En attendant, je vous invite à mon prochain blog qui traitera du contexte politico-économique dans lequel évolue actuellement le monde agroalimentaire. Au revoir.